Eh bien, bonjour mes valeureux oursins de la Mésopotamie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis excité au top, honnêtement, parce que c'est le grand jour où je vous offre mon preview du Samouraï MMA 1. La toute première carte de Samouraï MMA, le premier événement d'arts martiaux mixtes en territoire québécois depuis le 24 mai 2019. Et puis, on peut pas être plus excité que ça. Écoute, il s'est passé tellement d'affaires depuis le moment qu'on a appris que Samouraï MMA est une promotion qui faisait son entrée un peu dans le marché québécois. Et puis, écoute, il y a eu des embûches, il y a eu des moments où on s'est dit, Chris, ça n'arrivera rien que pas cette affaire-là. Mais finalement, on est à quelques jours de l'événement. Et puis, je suis là pour vous offrir mon preview, mes analyses de chacun de ces combats-là. Puis, je dis bien mes analyses et non pas mes analyses et prédictions, parce que c'est fini ce temps-là. Je ne vous donnerai pas de prédictions sur ces combats-là, les boys, parce que honnêtement, le monde se fâche après moi là, quand je fais ça. Puis, je suis tanné. Je n'ai pas envie que le monde se fâche après moi. J'ai envie qu'on soit content. Fait je fais pratiquement la même affaire que je faisais. Je vous analyse chacun de ces combats-là. Je vous dis pas, juste pas à faire. Je pense qu'un tel va gagner de telle façon. Vous déduirez bien ce que vous voulez en déduire de par les analyses que je vais vous donner. Alors, on est prêt à commencer. Et avec un combat qui est probablement, selon moi, le meilleur combat qui peut être booké sur le territoire canadien cette année, chez les 155 livres, Michael Dufort, Carl Prepelec. Et puis, écoute. C'est tellement un beau combat de la croisée des chemins. T'as le vétéran de l'UFC qui veut revenir dans l'UFC, qui veut prouver que ce n'était pas une bonne idée de l'UFC de le laisser partir. Puis il affronte le hot prospect, le gars qu'on se dit dans cette division-là, au niveau canadien, c'est probablement lui là, le prochain à avoir une opportunité, soit au Contender Series ou à juste faire le saut dans l'UFC. Ça va être un excellent combat, un très bon match-up très intriguant. Pour ce qui est de Mick Dufort, écoute, on l'a vu récemment, après une longue absence. Beaucoup de combats, vous allez voir, c'est un gros thème sur cette carte-là, une longue absence, parce que il n'y a pas eu d'MMA au Québec depuis 2019. C'est pas tout le monde qui était capable d'aller se battre à l'intérieur. En fait, c'est à l'extérieur. C'est très peu de gens, en fait, qui étaient capables d'aller se battre à l'extérieur. Et puis, oui, il y avait du MMA au Canada fin 2020, début 2021, mais c'est pas tout le monde qui a eu le temps de se battre cette année avant la carte de Samouraï. Heureusement pour lui, Mick a été capable de faire ça avec un combat au CFFC 100 au mois de septembre. Victoire par guillotine au premier round, on s'en rappellera, face à Troy Gerhardt pour continuer sur sa séquence qui était incroyable. Mick a commencé sa carrière à 0-2 en affrontant Carl Nelson, Alex Pereira, et depuis, il y a 8 victoires et une défaite dans ses 9 derniers combats. Sa seule défaite, on s'en rappellera tous, c'est sa guerre de 5 rounds contre Jesse Ronson à 170 livres chez TKO. Et puis, c'était une split decision, ça. Et tu sais, on connaît Mick, le gars a 100% de finishing rate et n'a jamais été fini. Fait que dans le fond, si ça se rend à décision, d'habitude, c'est les combats que Mick a perdus, parce qu'il n'a pas été capable de finir son adversaire en dedans de la distance. Puis, comme on dit, c'est arrivé une fois dans les dernières années, littéralement, là, alors qu'il a fait ses débuts pro en 2012. Fait que ça fait quasiment 10 ans que Mick Dufort se bat pro. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Donc, ça fait longtemps, le gars, qui n'a pas perdu de façon décisive dans un combat. Et puis, comme on dit, 100% de finishing rate, 6 victoires, 2 TKO au sol, 6 soumissions, principalement des rear naked choke, mais des guillotines aussi. Et puis, crime. On connaît le style de Mick Dufort, c'est un killer. Ce gars-là a la genre de qualité à la Brian Ortega. Dès qu'il te touche, il peut te soumettre. Tu sais, il y a deux types de grappler. Généralement, tu as le grappler qui va être très positionnel, qui va essayer de garder ses positions, dominer dans ses positions-là, lander du ground and pound, avancer s'il est capable, mais tu sais, tranquillement, en ne prenant pas de risque de jamais donner une position. Puis tu as l'autre type de grappler qui est le Ortega, le Charles Oliveira, le grappler qui est super submission-oriented, qui ne veut pas vraiment rester plus que 30 secondes, une minute au sol avec toi, anyway, parce que ce qu'il veut faire, c'est arriver à une position assez rapidement pour te choquer ou juste se lancer dans une soumission. Mick, et si tu essaies de shooter sur lui, il va te guillotiner, c'est connu. Au sol, c'est ses hanches qui sont vraiment incroyables parce qu'elles sont à la fois très lourdes, mais super flexibles. De la manière dont il bouge ses hanches, il flotte un peu par-dessus son adversaire, puis ça le rend très difficile à garder dans ta garde ou garder dans ta demi-garde. Puis c'est comme ça qu'il est capable de rapidement avancer dans des positions dominantes. Puis tu sais, c'est pas un gars qui prend ça soft. Il est vraiment brutal au sol, va chercher les pires positions que tu peux pas te retrouver en dessous. C'est un maniaque du crucifix, très solide dans le dos avec son gros body triangle. T'sais, vraiment, pas quelqu'un que... Si tu te retrouves plus qu'une minute en dessous de Mick Dufort, t'es pas juste dans ta garde à essayer d'éviter des soumissions, t'es probablement dans la complète merde, le gars dans ton dos ou le gars dans le crucifix, puis... Il finit pratiquement tout le monde de là. Le gars, c'est un finisher. Ça va toujours être son striking la plus grande question, bien que j'ai l'impression que cette question-là, il commence de plus en plus à y répondre. Là. On a vu justement contre Ronson, mais aussi contre Arizmendi, contre Fred Moncayo, qu'il y a eu des bons moments debout, une bonne main droite quand il cite sur sa main droite puis qu'il lance avec du power. Il est capable de déranger ses adversaires avec ça. C'est sûr que dans le combat contre Prepolic, ça va être Prepolic le striker. C'est ça qui fait principalement Karl Prepolic, mais si vous vous rappelez ses combats dans l'UFC, c'est pas le gars avec la plus grande takedown defense. L'affaire, c'est que Mick, on l'a déjà vu avoir de la difficulté quand même à amener les combattants au sol. Là, si j'avais à prendre un bet, je vous dirais que son striking est peut-être meilleur que sa lutte selon ce qu'on a vu dans ses derniers combats, ce qui n'est pas grand-chose honnêtement, là, parce qu'il s'est battu 2 minutes 1 dans les 2-3 dernières années, puis je le sais que Mick n'a jamais arrêté de s'entraîner là, pendant la pandémie ni rien. Fait que c'est probablement en travaillant beaucoup avec Olivier Aubin-Mercier quelque chose qui a beaucoup amélioré puis qui va arriver avec une amélioration au niveau de sa lutte. Mais des fois, surtout contre Ronson, on l'a vu essayer d'amener le combat au sol puis pas être totalement capable. Puis des fois, il est juste mieux d'essayer une guillotine puis de se lancer sur son dos. Puis à partir de là, il est capable de prendre la position. Puis ça, c'est un point fort de la game de Mick, c'est que même si des fois, c'est pas le meilleur lutteur traditionnel, genre prendre une jambe, faire un single leg, il est capable de trouver des façons créatives d'amener le combat au sol pareil. Puis ça joue toujours en son avantage. Surtout contre un gars comme Karl Prepolic, qui, je disais, est principalement un striker. Quelqu'un qui est un gaucher, un autre gaucher. Mick Dufort n'affronte que des gauchers récemment. Puis s'entraîne avec un très bon gaucher, hein, Holly Aubin. C'est un combattant qui est complet, Karl Prepolic. On ne se le cachera pas, il est complet. Bon grappler, tu sais, en général. Et surtout un striker, comme j'ai dit, surtout quelqu'un qui veut garder le combat debout. Il est capable de se battre en allant de l'avant puis en allant de reculons. Mais sa game est vraiment volume over power. Tu sais, c'est quelqu'un qui va travailler derrière son jab puis qui va prendre son jab pour initier la majorité de ses combinaisons, voire toutes ses combinaisons. Puis il est capable, avec des bons petits counters, là, c'était là de pincer quelqu'un puis de surprendre quelqu'un. Mais rarement, on le voit avoir beaucoup de power dans ses punches. Fait que c'est un combattant qu'il faut qu'il travaille, il faut constamment qu'il garde un gros pace, il faut constamment qu'il mette du volume dans la face de son adversaire. Puis c'est sûr que le game plan contre Mick, ça va être essayer de se servir beaucoup de son jab puis beaucoup de footwork pour essayer de tourner à l'entour de la cage, probablement être le gars qui recule pour un peu avoir un head start sur les mouvements que Dufort va essayer de faire, puis ainsi ne pas se faire amener au sol parce que on l'a vu dans son dernier combat UFC contre Austin Hubbard. Si ça n'avait pas été des takedowns, je pense que Prepolic gagnait ce combat-là, mais il y a eu tellement de takedowns. Puis oui, il se relève bien, pas toujours de la bonne manière. C'est un gars qui va laisser des opportunités en se relevant. Puis tu ne veux pas faire ça avec Mick Dufort. Tu veux juste pas que Mick Dufort se retrouve par-dessus toi. Fait que Karl Prepolic, s'il veut gagner ce combat-là, va devoir éviter les takedowns, le combat au sol à tout prix. Puis même éviter le clinch où Mick est justement capable, de, à partir de là, de se pogner une position, se lancer dans une guillotine. Il est excessivement dangereux. Dès qu'il met la main sur toi, il peut te soumettre. Puis Karl Prepolic va avoir à s'arranger que Mick ne mette pas la main sur lui s'il veut gagner ce combat-là. Et puis, tu sais, la dernière affaire que je veux toucher un peu, c'est le fait que, tu sais, on a un match-up ici avec un gars qui est un finisher né, là, qui finit tout le monde, qui bat, qui est excessivement dangereux en tout temps dans le combat. Puis t'en as un autre que, tu sais, Karl Prepolic va avoir beaucoup de choses à faire sans faire d'erreur s'il veut être en mesure de battre Mickaël Dufort dans ce combat-là. Parce que, oui, c'est un bon combattant, il est technique, il fait tout bien, mais il fait rien d'excellent. Puis c'est pas quelqu'un qui a le one-shot power pour te finir ou qui a quelque chose comme ça que tu te dis « Ah, même si Prepolic n'est pas en avance dans ce combat-là, il peut sortir ça out of nowhere puis gagner. » Contrairement à Mick, qui, bien sincèrement, Mick peut se faire péter la gueule pendant tout ce combat-là puis quand même sortir une soumission à la toute fin. Il y a vraiment ce X-factor-là dans sa game. Puis c'est ça qui fait que ça va toujours être un match-up difficile pour Karl Prepolic, qui, comme on dit, revient de l'UFC puis s'est pas battu depuis longtemps. Lui aussi, là, son dernier combat, je pense que c'était en 2020, c'est peut-être en 2019, là, je vais vérifier direct ici. Fin 2019, septembre 2019. Donc, lui aussi, quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il s'est pas battu, puis c'est un dur match-up, essayer de se remettre dans la game, essayer de combattre son ring rust avec un complément de mental comme Michael Dufort qui est game de prendre les risques, on l'a vu, est game de manger une bonne shot d'en face parce qu'il est excessivement tough, là, c'est ça que j'ai pas abordé, tu sais, mais on a vu le combat contre Ronson, il a mangé des shots incroyables, puis jamais il a vraiment l'air sonné par rien de tout ça, le gars, il a une mâchoire incroyable, il est capable d'en prendre, puis ça fait que ça va être dur pour lui de pas juste avancer et dire « fuck it, il me lancera à peu près n'importe quoi, je vais le prendre puis je vais réussir à faire de quoi en retour. » Dur match-up pour Karl Prepolek, mais un excellent combat entre deux combattants très, très high level. Tu sais, selon moi, Karl Prepolek, ils ont pas été gentils avec lui. Là. Ils ont non seulement, il leur a rendu un service en arrivant dans l'UFC sur short notice à 170 livres contre Nordine Taleb. C'était vraiment short notice. Là. Si je me rappelle bien, c'est comme une ou deux semaines, quelque chose comme ça. Puis là, il fait ça. Après, il se bat contre Austin Hubbard, son premier combat dans sa vraie division à 155 livres. Puis après, il cut. Fait que, tu sais, en plus, les deux combats contre Taleb, ça a été compétitif, pas nécessairement serré. Je pense que Nordine a clairement gagné ce combat-là, mais compétitif. Puis, désolé, contre Austin Hubbard, aussi, ça a été excessivement compétitif, même plus serré que contre Nordine. Comme j'ai dit, c'est les takedowns qui ont fait de la différence dans ce combat-là pour Hubbard, mais un gars qui a montré qu'il avait sa place dans l'UFC, Karl Prepolek, puis là, il se retrouve en dehors de l'UFC à essayer de se rebâtir un peu, puis il se retrouve avec un match-up comme Mick Dufort qui va absolument être le gars le plus dangereux du monde pendant chaque instant de ce combat-là. Alors, match-up absolument fascinant dans le main event de Samouraï. Et puis, on va brièvement aller à la pause publicitaire avant les autres parce que, crime, il faut bien que je mange. Le Hypoke Podcast est commandité par Manscaped, le pro des produits de rasage et de soins des parties intimes pour les hommes. Manscaped propose des outils de haute précision pour vos bijoux de famille. La marque vient tout juste de lancer sa tondeuse 4e génération, le Lawnmower 4.0, partout au Québec et au Canada. Vous avez bien entendu, le 4.0, les boys. Rejoignez les 4 millions d'hommes qui font confiance aux outils Manscaped avec cette offre exclusive juste pour vous. 20% de réduction. Et la livraison gratuite partout dans le monde avec le code MMATALK sur manscaped.com. Imaginez vous raser avec une tondeuse élégante, optimisée et super bien faite qui fait du rasage une partie de plaisir dans la salle de bain. J'ai eu la chance de faire partie des premiers à tester la nouvelle 4.0 puis je dois vous dire, je suis époustouflé. Le design et le niveau de détail qui a été mis dans cette machine-là, ça place la barre très très haut. En plus, on a tous déjà été témoins d'histoires d'horreur dans la douche. Du sang, de la sueur et des larmes ont été versées en tentant de maintenir une allure acceptable à vos petits amis. Et en tant qu'homme, vous savez autant que moi qu'il y a juste une partie de notre corps qu'on ne veut jamais voir en sang, puis c'est nos bijoux de famille. Fait que faites pas comme si ça vous était jamais arrivé. J'ai déjà vécu une expérience de la sorte, mais plus maintenant, parce qu'avec l'aide de Manscaped, je peux me raser l'esprit en paix et être confiant que peu importe ce qui arrive, peu importe dans quelle situation la vie me place, mes bijoux de famille seront bien rasés et en parfaite condition pour m'aider à affronter la vie. Manscaped a mis au point la tondeuse ultime pour les parties intimes et le corps en développement des fonctionnalités intelligentes doublées d'un confort de rasage sensationnel. Leur tondeuse 4e génération présente une lame en céramique de pointe dotée de la technologie Advanced Skin Safe pour réduire les accidents de rasage. Je me rase les doigts dans le nez avec ça, littéralement. Cette tondeuse nouvelle génération est aussi équipée d'un bouton on and off multifonction qui peut être verrouillé et aussi une lumière LED 4000K pour un rasage de précision. Le Lawnmower 4.1 permet même de personnaliser la longueur de coupe avec 4 tailles de sabots supplémentaires. Est-ce que je vous ai même parlé de la recharge sans fil? La nouvelle technologie de recharge sans fil à induction électromagnétique aide la batterie à tenir plus longtemps. Si vous vous rasez la barbe avec la même tondeuse que vos bijoux de famille, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas là pour vous juger. Mais il n'y a personne qui aime avoir des poils plus bien dans la bouche entre vous et moi. Fait que c'est le moment de vous procurer votre propre tondeuse pour les bijoux de famille et le corps avec Manscaped pour prendre soin de ses balls en toute confiance. Bénéficiez de 20% de réduction et de la livraison gratuite avec le code MMATALK sur manscaped.com. Je répète, c'est 20% de réduction et la livraison gratuite sur manscaped.com avec le code MMATALK. Prenez confiance en vous et utilisez toujours les bons outils avec Manscaped. Vos bijoux de famille vont vous remercier. Let's fucking go. Merci Manscaped. Bien gentil. On vous aime. Achetez-en massivement en utilisant le code. Ça va être fou. Tout le monde va être content. Et vos couilles vont être en pleine santé Parlons maintenant d'Alex Morgan, Majed Amo. Je suis pas sûr, j'écoutais le broadcast de Unified, puis il l'appelait Majed Amo. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Majed. Fait que là, je suis plus certain. Ça serait bien que je sache ça avant vendredi. Je vais lui demander à peser. Mais bref, Alex Morgan contre Amo. Énorme combat. Je sais que vous connaissez probablement pas Majed Amo, fait que je m'en vais vous le décrire pour vous. Le gars a une fiche de 10 victoires, 5 défaites, 1 combat nul dans ses 10 victoires. Il y en a 5 par KO et 5 par soumission. Fait que lui, avec, il arrive avec un 100% finishing rate et il n'a jamais perdu par knockout. Le gars a perdu par soumission, par décision, mais n'a jamais perdu par knockout. Son dernier combat, lui aussi était comme un peu sur un hiatus, il s'était pas battu pendant longtemps. Et il est revenu cette année sur short notice au Unified 40 face à Neil Anderson dans un combat de championnat chez les 145 livres. Et puis, écoute, il a eu toutes sortes d'ennuis au premier round, s'est fait dropper, est revenu fort au deuxième, a perdu le troisième. Et là, on se disait, Anderson est en train de se sauver avec ce combat-là. Puis, à quelque part au quatrième round, Amo réussit à l'under takedown et puis travaille un petit peu, se retrouve dans son dos, lui passe un rear naked choke out of nowhere et gagne le championnat des Unified MMA qui, avec BFL, c'est probablement là, les deux meilleures promotions d'MMA canadiennes. C'est en direct sur UFC Fight Pass et tout. Fait, énorme win pour Amo qui revient puis automatiquement se rétablit comme probablement le numéro 2 au Canada derrière Alex Morgan. Donc, on a vraiment un combat numéro 1 contre numéro 2 au Canada chez les 145 livres. Puis Amo est sur une bonne streak. Là. Depuis 2016, fiche de 4 victoires, 1 défaite, 1 combat nul, sa seule défaite contre Jesse Arnett. Puis c'est un gars du Canadian Martial Arts Center, le gym de Lee Mean, qui amène du talent sur toutes les shows, dont Lee Main lui-même qui se bat sur short notice contre à peu près n'importe qui, même à 50 ans. Fait que vous comprendrez que c'est des fighters dans ce gym-là. Mais quand je vous dis que c'est des fighters, c'est des vrais de vrais. Puis Amo, c'est exactement ça. Le gars va être dans ta face, que ça aille bien ou que ça aille mal, il va être dans ta face, puis il n'arrêtera jamais de se battre. Même si un moment donné, il se gassote complètement à tellement keep un fast pace, il va continuer, même fatigué, il va continuer de se battre. C'est vraiment un bon combattant. J'ai dit, garde un bon pace, mais un pace constant et tout. Le gars commence ses combats rapidement et ne ralentit vraiment jamais. Puis c'est facile parce qu'il commence tellement fort au premier round, si t'es habile, de le clock avec des counters, avec des choses, parce que le gars va vraiment commencer le combat, lancer beaucoup de volume. C'est un amateur des spinning shit. Il aime bien finir ses combinaisons avec des spinning backfists ou des spinning kicks en général. Puis c'est un bon combattant, well-rounded, va essayer d'aller chercher des takedowns, très bonne submission game au sol, est capable d'aller chercher des belles positions pour lander du ground and pound. Tu vois, c'est vraiment un combattant d'arts martiaux mix excessivement complet qui est très, très bon dans tous les aspects. L'affaire avec lui, c'est que je ne sais pas jusqu'à quel point il y a un game plan, tu sais. C'est vraiment un combattant qui va là pour se battre, puis il va être là pour se battre, puis il va essayer de rendre ça le plus dirty possible, parce qu'on s'entend qu'Alex Morgan, c'est pas mal le contraire de ça. Pas que c'est pas un fighter, c'est pas ça que j'essaie de dire, mais c'est un tacticien. Alex Morgan, c'est pas le gars qui préfère arriver dans un combat puis brawler avec son adversaire. Amo va absolument faire ça s'il laisse la chance de faire ça, même que c'est ce genre de pace-là qu'il essaie d'imposer sur toi. Fait qu'on a vraiment un match-up de technicien contre batailleur. Si on a le gars, hein, Alex Morgan, le Chess Master, va essayer de travailler derrière son jab, va essayer de rester à son long range, puis set up ses combinaisons avec son jab. Puis on a vu dans son dernier combat, de mieux en mieux pour lender des takedowns, établir des belles positions confortables au sol où il peut laisser aller du ground and pound. Ça, c'était un wrinkle qu'on n'avait vraiment pas vu à sa game, puis qui l'augmente immensément, selon moi. Puis en plus, comme il a dit quand je l'ai reçu sur le podcast, le fait qu'il a maintenant son gym, Alex, avec le Tristan Rivenard, puis qui enseigne constamment, ça lui permet de se remémorer ses techniques de base-là, puis de vraiment toujours améliorer le niveau technique de sa game, parce que ces techniques-là, lui aussi, il est drill quand il les enseigne à ses étudiants, puis ça fait de lui encore un meilleur tacticien, selon moi. Fait qu'ici, c'est le match-up du gars qui va arriver avec un excellent game plan établi de comment battre un adversaire comme Majed Amo, puis qui va travailler en fonction de ce game plan-là dans le combat, que ce soit aller chercher des takedowns ici là, ou que ce soit travailler derrière son jab. Puis, tu vas avoir Amo qui va essayer d'être dans sa face, de se battre, de lancer des counters, même s'il se fait toucher, il va lancer, puis il va essayer de rendre ça désagréable, puis de clincher, puis d'aller chercher des takedowns. Puis, tu sais, Amo, c'est un gars que même s'il se retrouve en dessous, a une garde très active, va lancer des soumissions, il essaie d'être vraiment désagréable, puis de rendre le combat dirty, tu sais, de pas que ça soit pas un bel échange de kickboxing at range entre deux combattants très techniques. Lui, il va essayer de casser le rythme de son adversaire, vraiment rendre ça lettre, rendre ça une guerre, un combat de bord, un combat à close range où les gars, il y a beaucoup de clinch, il y a beaucoup d'échanges de lutte pour essayer de soit pas se faire takedown, d'amener le combat au sol parce que t'es tanné du pace qui t'impose. Puis c'est vraiment un combattant difficile à affronter, un excellent test pour un tacticien comme Alex Morgan qui arrive toujours avec le bon game plan et la bonne façon d'approcher chacun de ses adversaires. Fait que c'est vraiment un combat qui m'excite énormément sur cette carte-là. Le style match-up est fascinant. Puis oui, quand tu regardes les deux combattants, il y en a un qui a l'air plus talentueux, plus fluide, plus athlétique que l'autre, mais l'autre travaille tellement fort que écoute, ça peut juste être un bon match-up. Je vois pas comment ça ne le serait pas. Et puis, juste avant ça, on va avoir deux combattants de rue, deux brawlers, deux gars qui mettent du power dans chacun de leurs shots. Stranja Gavrilovic, après toutes les choses qui sont arrivées avec lui là, dans les dernières années, que ce soit le failed test contre Barrio. Écoute, le combat contre Barrio, c'est son dernier combat. Là. Le 8 décembre 2017, c'est la dernière fois que Stranja Gavrilovic s'est battu. Puis mon Dieu, que ça en est passé des affaires avec lui depuis ce temps-là. Il a fallu qu'il se batte en cours pour obtenir son permis. Puis il a finalement réussi à l'obtenir. Puis on va finalement le voir en action contre Jonathan Bosuku, un prospect français qui n'arrive pas avec une belle fiche. Là. On ne se le cachera pas. Pas une belle fiche du tout, le gars. 7 victoires, 6 défaites, un draw, un no contest. Mais affronter du bon calibre de compétition, là, de Fabien Edwards à Bellator. C'est battu contre Fabien Edwards à Bellator, tu sais. Il a affronté des très bons combattants comme Mickaël Leboux, Mickaël Casper, Emma Argui. C'est un bon résumé qu'il y a quand même. Puis il y a vraiment une drôle de trajectoire de carrière, là, je ne vous le cacherai pas. Il a commencé sa carrière 0-3. Perdu ses 3 premiers combats. Ensuite, il est parti sur une streak où il a gagné 7 de ses 8 prochains combats pour une fiche de 7-1 en 8 fights. Fait que ça lui a donné une fiche de 7-4. Puis là, dans ses 4 derniers combats, 2 défaites, 1 draw et 1 no contest. Le no contest, c'est dans son dernier combat où, basically, il a landé un coup de genou à la tête de son adversaire, puis après, il l'a fini. Puis sur le moment, il a été déclaré gagnant, mais par après, ça a été comme deemed un coup de genou illégal. Donc, ils ont viré la décision en no contest, malheureusement pour lui. Fait que, pratiquement, il a gagné son dernier combat. Là. Je pense qu'on peut dire ça. Et puis, quand j'ai regardé ces combats, j'ai quand même été très satisfait de la job des matchmakers de Samurai ici, parce que le gars, c'est principalement un striker, game de se battre dans tous les aspects des armes mix, mais principalement un striker qui lance à que du power. Que du power. Quand ses adversaires chargent avec une attaque, il est du genre à essayer de lancer une combinaison de 3-4 crochets full power en counter. Puis, c'est sûr que son gas tank et puis son volume ont tendance à peut-être descendre un petit peu plus le combat avance, comme c'est normal pour les gars de 185 livres et plus qui ont vraiment un style focus sur lancer du gros power puis faire mal avec chacun de ses punches. C'est un gars qui commence à avoir quand même de l'expérience en arts martiaux mix aussi, donc c'est comment mieux gérer son gas tank, puis c'est qu'il ne peut pas à la fois être quelqu'un qui lance énormément de volume puis qui lance du power comme ça. Je vous le dis, ce gars-là, dans tous les combats que j'ai écoutés de lui, je ne l'ai jamais vu ne pas sit down à 100% sur un punch. Là. Essayer d'arracher la tête de son adversaire avec chacun de ses punches. Puis aussi, il est excessivement tough. Le gars ne s'est fait finir là, dans ses 6 défaites. Il a perdu une fois par knockout. Puis honnêtement, il s'est fait cut avec un head kick là, en début de combat. Il était frais. Puis la technique était superbe. Puis n'importe qui va pas mal se faire finir quand ils se font geler en pleine tête avec un kick d'un double de cette grosseur-là. Donc, vraiment un combattant excessivement durable. Dans son dernier combat aussi, il a mangé des gros punchs, le gars. Puis souvent, sa réaction à manger ce gros punch-là, c'est d'essayer d'en lancer un plus gros en retour. Puis ça, c'est-tu pas exactement ce que Stranja fait? Genre, c'est pas exactement la game de Stranja d'être méchant, puis de frapper fort, puis de lancer en retour, puis dès que tu manges un bon punch, d'en lancer un plus gros, comme son combat contre Michael Falcao. Ça me fait un peu penser au match-up contre Michael Falcao, dans le sens que t'as deux gars qui vont probablement stand à close range qui vont essayer de se faire très mal sur chacun des punches qu'ils vont lancer. Puis ça va être à voir si ça va durer pendant 15 minutes ou s'il y en a un qui va tomber. Puis honnêtement, Bosuku, on ne l'a jamais vraiment vu tomber à part la fois qu'il s'est fait pogner en début de premier round. Strania, on ne l'a juste jamais vu tomber. Le gars, sur sa fiche, c'est littéralement un paquet de split decision puis une disqualification contre Joe Valley. C'est ça, c'est défaite. Fait que t'as des gars qui frappent très fort, qui sont des finishers, qui se font jamais finir puis qui vont probablement les deux essayer d'être à close range puis se faire le plus mal possible. Ce qui va être intéressant de voir, c'est Strania, son conditionnement, parce qu'on l'a vu là, contre Barrio, puis on le sait que c'était pas la semaine qui était le plus en forme dans sa vie, là, si vous connaissez l'histoire, mais il a fait 5 rounds ultra aisément. Ce qui me fait penser qu'il va être capable de faire son 15 minutes comme si c'était rien, même si la dernière fois qu'il s'est battu, c'est basically en 2017, ce qui serait un facteur important dans n'importe quelle analyse, j'ai l'impression, mais ici, c'est Strania, puis c'est, tu sais, la joke de Weekend of Cocaine, là, de John Jones, lui, c'était une week of cocaine, puis il a quand même été faire 5 rounds contre Barrio, qui est allé dans l'UFC après, puis qui a du succès là-bas. Donc, j'ai de la misère à croire que Strania, même ça fait longtemps que c'est pas battu, va avoir une moins bonne gas tank. Fait que je m'attends à une guerre, je m'attends à un brawl, je m'attends à un des combats les plus excitants de la soirée entre deux gros gars qui vont essayer de se faire très mal, puis que demander de plus? Ensuite, Don't Blink, parce que Frédéric Duprat, Patrick Connors, ça va être encore une guerre incroyable. Pat Connors, c'est un combattant qui avait commencé sa carrière 3-0, et puis malheureusement, il a perdu ses trois derniers combats, dont un contre Max Le Carcajou, qui se bat sur la carte. Mais écoute, ses défaites, c'est Max Le Carcajou, Mike McAloon, qui sont littéralement deux des meilleurs 145 livres au Canada, et Dakota Hope Lewis, qui est, je pense, un prospect invaincu, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, qui est un excellent lutteur, tu sais, puis vraiment un highly touted prospect, tellement que quand il est allé se battre contre Dakota au mois de juin, c'était un combat pour la ceinture, là, pour peak fighting. Et puis depuis ce combat-là, Pat Connors a switch gyms, il s'entraînait à Barrie, là, à Empire MMA dans son hometown, puis il a switch pour venir à Ottawa s'entraîner avec Fred Stonehouse à Surge MMA. Fait que ça va être vraiment le fun de voir comment ça va améliorer sa game. Parce que Pat Connors, basically, ben first, la première fois que tu te rends compte quand tu le vois, c'est qu'il est très, très grand. Il mesure genre 6 et 1 à 145 livres. Donc, c'est pas mal ça, une de ses bonnes caractéristiques, surtout debout, où il est capable de stay at range puis de toucher son adversaire quand son adversaire peut pas vraiment le toucher. L'affaire, c'est que j'aimerais ça le voir lancer un peu plus debout. Des fois, j'ai l'impression que c'est souvent one shot and out, one shot and out. Puis je verrais, tu sais, avec son range, s'il est capable de travailler des combinaisons en arrière de son jab et de lancer du volume debout, se transformerait tellement en un excellent striker. Puis le gars, tu sais, le seul knock que je pourrais vraiment mettre sur son game, c'est qu'il est vraiment complet comme combattant. Puis ça fait qu'il a absolument pas peur d'engager son adversaire dans n'importe quel aspect. Il faudrait qu'il travaille sa takedown defense. On a vu ça dans son dernier combat. Mais c'est sûr que le dernier combat, il affrontait vraiment un très bon lutteur. Mais, tu sais, il faisait des belles choses au sol contre Dakota Hope Lewis. Il était capable de créer de l'espace entre lui et son adversaire avec ses genoux, puis bien jouer avec ça parce que le gars, il est tellement grand. Mais je trouve qu'il ne servait pas assez de ça pour juste repousser son adversaire puis se relever debout, ce qui était absolument la chose qu'il fallait qu'il fasse pour gagner ce combat-là. Fait que j'ai l'impression que c'est un gars qui est tellement complet, tellement confortable dans tous les aspects des arts martiaux mixtes, qu'il n'a pas peur d'échanger un peu où son adversaire veut échanger, puis ça fait qu'il ne dicte jamais l'allure du combat. Il se bat pas mal toujours dans le style que son adversaire veut imposer, puis tu ne veux pas vraiment faire ça contre Fred Duprat, parce que Fred Duprat, il est en kill mode de la première seconde du combat. Le gars n'a jamais passé 51 secondes chez les pros, puis c'est la meilleure guillotine au Canada. Il y a bien du monde qui dit que c'est du fort. Moi, je dis que c'est du pro. Je pense même que du fort dit que c'est du pro. Et le gars, il fait que ça. Essayer de prendre ta tête, puis de peu importe où il est, il réussit à prendre ta tête, puis à transformer ça somehow dans une tentative de guillotine, puis son squeeze était incroyable. Le gars est excessivement athlétique, explosif, toutes ces affaires-là. Donc, son squeeze était incroyable. Le gars, si tu dis que Dufort, c'est un submission artist que dès qu'il touche, il peut te soumettre. Si Duprat, il te touche, il est probablement trop tard. Il est déjà probablement en train de te soumettre. Puis, la seule affaire qui va être vraiment intéressante ici, c'est justement comment Duprat va approcher son retour, parce que lui aussi, ça fait immensément longtemps qu'il ne s'est pas battu. Là, la dernière fois qu'il s'est battu, c'était au TKO Fight Night 1 contre Johnny Baldridge, là, un combat que malheureusement, on s'en rappelle tous parce que c'était un knockout brutal et c'était au mois d'août 2018, ne s'est pas rebattu depuis. C'est sûr que naturellement, après un knockout comme ça, il a pris une longue pause. Puis là, quand sa longue pause était finie, bien, la pandémie, tu sais, commençait, TKO mourait. Fait, il n'a pas eu l'opportunité de se rebattre. Fait, ça va être intéressant. Lui qui revient d'un knockout comme ça, lui, ça fait tellement longtemps, il a eu le temps de vivre tellement de choses depuis que je ne pense pas que ça va être autant présent dans son esprit que s'il revenait, mettons, à la fin de la même année que ça serait arrivé. Mais il va quand même avoir à dealer avec un gars qui est très rangy, qui est capable de mettre un bon jab là. Fait que, tu sais, je me demande comment ce début-là de combat va commencer, parce que Connors, non, n'a pas gagné ses derniers combats, mais a quand même été actif récemment, beaucoup plus que Fred Dupra. Fait que Fred qui est tellement combattant, le go mode, le kill zone, let's go, il va dès la première seconde du combat. Je me demande comment il va aborder les premières secondes de ce combat-là, vu que ça fait tellement pas longtemps, c'est tellement longtemps qu'il n'a pas fait ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas été dans la cage, toutes ces affaires-là. Fait que ça va être intéressant de savoir. Puis si ça passe, c'est une minute, ça va être... Moi, j'aimerais ça voir Fred se battre plus qu'une minute, honnêtement. J'aimerais ça voir qu'est-ce qu'il peut nous offrir debout plus que... T'sais, on a vu que son debout est correct, qu'il a gelé Tyler Wilson avant de le soumettre, mais on ne l'a jamais vu dans des échanges de striking prolongés. On connaît encore presque rien de ce gars-là. Il s'est battu peut-être 2 minutes qu'en 3 combats. Fait que j'aimerais ça voir plus longtemps de Fred Dupra. Mais je le sais que c'est pas dans sa game puis qu'il va probablement essayer de finir ça dès les premiers instants du combat. Donc, ça va être un banger. Je pense que c'est Pat Connors qui l'a mieux dit. Game recognizes game. Puis c'est vrai ça, Pat Connors. C'est un fighter qui est game. Tu veux te battre debout, on va se battre debout. Tu veux te battre au sol, on va se battre au sol. Moi, je suis game de faire whatever. Puis on va voir si Fred Dupont va être capable de l'entraîner dans sa game dès les premiers instants du combat. Mais ça va banger, ça. Puis ça nous mène à un combat qui m'excite beaucoup. Guillaume Forcier, Maxime Poulain. Guillaume Forcier qui ne s'est pas battu depuis 11 ans, les chums. Son dernier combat, le 7 août 2010, où il a perdu à 4-41 du premier round par blessure à la cheville. Fait que c'est drôle de façon de comme terminer sa carrière, mais malheureusement pour lui, sa carrière n'était pas terminée parce qu'11 ans plus tard, le dos dit « Chris, pourquoi pas? Je vais me battre. » Puis, tu sais, des combats que j'ai vus de lui, là, Guillaume, c'est le genre de gars qui a cette pole guard puis tout, là, vraiment un excellent grappler. Puis je le sais que c'est un excellent grappler parce que c'est le coach de Jiu au Nova Gym. Puis quand je vais à Québec, c'est le gym de Danny Laflamme qui est un gym affilié Nova Union. Moi aussi, je suis Nova Union. Fait que c'est là que je vais rouler quand je vais à Québec. Fait que j'ai déjà été au cours de Guillaume. J'ai déjà roulé avec Guillaume. Je le sais que c'est un excellent grappler, un brown belt en jiu-jitsu. Puis principalement, je le sais que c'est ça qu'il va vouloir faire dans ce combat-là. Puis c'est pour ça que ça m'excite comme ça. Parce qu'il affronte Max le Carcajou Poulain, qui lui-même est un des très bons grapplers au Canada, surtout en MMA. Puis que, tu sais, principalement, c'est ça qu'il veut faire dans ses combats. C'est comme ça qu'il gagne la majorité de ses combats. C'est juste deux bons grapplers qui font du jiu, tu sais, des bons gars de jiu, que c'est ça qu'ils aiment faire. Puis oui, ils sont capables de striker, oui, ils sont capables de lutter, oui, ils sont capables de faire toutes les choses qu'il y a dans les arts martiaux mixtes, mais ce qu'ils préfèrent faire, c'est rouler. Puis là, tu as deux gars qui vont probablement vouloir rouler, qui vont s'affronter. Le meilleur grappler sera le vainqueur. Puis moi, je suis exactement juste là pour checker ça. Puis pour checker le combat d'avant et tout, parce qu'honnêtement, tu sais, full disclosure, Yacine Nasri est la personne sur qui j'ai pas d'infos. J'ai essayé de demander si c'était possible de voir certains de ces combats. Il y a 2 combats pro. Un qui a gagné par soumission, l'autre qui a perdu par soumission. Et puis le dernier qui a disputé, c'était en 2019. Puis il l'a perdu, c'était par Rear Naked Choke. Mais il a aussi gagné un combat par soumission. Puis, tu sais, de l'info que Manu m'a donné sur lui, c'est un grappler. C'est un gars qui veut principalement grappler. Il a commencé le jiu-jitsu. Puis à partir du jiu-jitsu, il a fait son chemin en MMA. Puis à ce qu'il m'a dit, le seul footage que j'aurais pu trouver de lui, c'était un grappling match. Puis je l'ai trouvé. Puis ça a l'air d'un bon grappler. Ça a l'air d'un grappler, tu sais, assez avancé. Là, je dirais purple belt level, au moins de ce que j'ai vu dans un combat de 6 minutes. Là. Fait que, tu sais, j'ai rien. Là. Le gars pourrait arriver et se mettre à striker. Puis je serais genre, oh! Mais il a dit à Manu que c'était principalement un combattant au sol, puis qu'il avait commencé la MMA à partir du jiu. Puis la seule affaire que j'ai vue sur lui, ben, c'était du sol. Puis Pierre Thivierge, ben, lui aussi, c'est un gars qui aime bien rouler, qui est une bonne mauve en jiu, puis qui est un bon lutteur parce que crime. Pierre est tellement petit, puis je sais qu'il faut arrêter de beat là, le drum, là, c'est comme quasiment Jean de Mason. Bon, il est asthmatique. Pierre Thivierge, il est petit. Pouvez-vous croire ça que Pierre Thivierge, est-ce qu'il est petit? Avez-vous déjà vu Pierre Thivierge? Ben oui, il est petit. Mais C'est un, il a réussi à développer un style, tu sais, alentour de sa grandeur, parce que Chris, il n'a pas le choix. Il est petit. Puis ça fait que c'est un bon lutteur. C'est un bon positional grappler qui voit très bien les backtakes puis prend très bien le dos là, lorsque l'opportunité s'ouvre. Fait qu'encore là, j'ai l'impression que c'est deux gars qui voudraient probablement se battre au sol, bien que Pierre a peut-être un avantage debout ici, puis peut-être un avantage au niveau de la lutte, je ne le sais pas. Je ne connais rien sur Yacine Nasri, comme je vous ai dit. Mais Pierre est game de se battre debout ici. On l'a vu contre Crosswell, un peu se retrouver stuck at range contre un très grand combattant. Mais c'est un gars qui est game d'échanger debout. Souvent, c'est strike men à des takedowns. Il y a quelque chose que j'aime bien chez Pierre, ça je vais vous le dire. Il est capable de set-up ses takedowns avec ses mains. Mais une autre chose qui fait très bien, des fois, c'est juste shooter un takedown naked de même. Là, juste genre, hey, check ça, le gros, je shoot. Puis là, pouc, il shoot. Puis là, à partir de là, ça devient une guerre où il y a du très bon chain wrestling. C'est un très bon chain wrestler. Il est capable de juste shooter un takedown naked en se disant, je vais probablement pas le réussir, mais après, je vais switcher un double ou je vais switcher à un foot trip ou à n'importe quoi d'autre. Puis c'est ceux-là qui finit après. Fait qu'il y a comme deux manières d'amener ses takedowns. Ça peut keep son adversaire guessing un petit peu de est-ce qu'il va essayer, tu sais, le classique me lance un overhand puis shooter ou il va shooter direct puis essayer de me pogner avec son deuxième ou son troisième attempt. Fait que ça, c'est très intéressant. Si Yacine nous a pas joué des petits tours, il se pointe pour rouler avec Pierre Thivierge. Fait qu'encore un combo où les deux vont rouler, même moi, c'est le paradis des grapplers pour moi. Puis si vous voulez être au paradis des strikers, ben ça va être le premier combat de la soirée qui va être pour vous parce qu'on a Noah Crosswell face à Irvin Barrett. Noah Crosswell, un gars d'Hamilton, Jocelyn's MMA, très bon coach, très bon gym. Et puis quelqu'un qui faisait pas mal, je trouve, contre Serge Dankos. Ne battait pas Serge Dankos, là, qui était excessivement explosif et un des meilleurs prospects au pays, basically. Mais faisait pas mal contre Serge Dankos dans ce combat-là. Il était capable d'utiliser des longs strikes at range. Ils sont paresseuses un peu des fois. C'est ça qui me faisait peur. C'est qu'il est main très basse. Des fois, il va lancer un jab super lazy puis c'est là-dessus qu'il se fait counter. Et puis, c'est comme ça là, que Serge l'a eu avant de le finir. Mais basically, c'est un bantamweight de 6 pieds qui est capable de rester à range, lancer des longs strikes. Puis oui, des fois, ils sont paresseuses, mais c'est parce que le gars, il est vraiment très confortable et relax pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Là. Puis change beaucoup de stance. Et quand même flat-footed, par exemple, je dirais. Il n'est pas le gars qui bounce beaucoup in and out of range, contrairement à son adversaire. Mais on a vraiment un style de combattant là, qui va essayer d'aller de l'avant, mettre du volume sur son adversaire puis le garder loin de lui parce qu'il peut, parce qu'il mesure 6 pieds puis il se bat à 135 livres. Irvin Barrett, pour sa part, écoute, c'est un gars que j'ai checké ses combats puis je suis excité de l'avoir ici parce qu'il y a des très belles choses qu'il fait. Puis il y a d'autres choses qu'il fait que t'es genre, oh, qu'il manque d'expérience ici, mais je pense que le produit brut d'Irvin Barrett est vraiment excellent. Un gars de la Old School Academy là, de Gaétan Hurtel à Paris. Très bon kickboxer qui vient du Sanda, qui est un champion national de France en Sanda, qui a représenté le pays là, au championnat du monde et tout. Vraiment excellent kicker, super confortable sur ses pieds, un naturel debout, un excellent flow. Lui, il a plus le style bouncy, le bounce in and out of range, lead souvent avec des kicks, mais est capable de lancer des mains en arrière de ses kicks. Vraiment un excellent striker, confortable. L'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu dans le mindset MMA de « je dois tout faire ». Puis dans son combat contre Julien Sault, il est allé lui-même chercher des takedowns puis c'est quand il s'est dans la merde avec ça. Il s'est fait armbar raide dans son combat. Puis il n'a jamais tapé. Là. Le gars, c'est un malade. Il n'a jamais tapé. Mais c'est fait armbar solide. C'est fait triangle solide. Et ça, parce que même s'il gagnait absolument le combat debout, il était là, mais moi, je fais du MMA. Donc, aller chercher des takedowns. Puis se retrouver dans ces échanges de grappling contre son adversaire qu'on a vu plus tard dans ce combat-là. Son adversaire, il poulait guard là, tellement que c'était que du combat au sol qu'il voulait faire. Fait que on est sur un bon striker qui va essayer de se battre dans tous les aspects. Je pense que ça peut être bon pour lui contre Crosswell. Mais d'un autre côté, il y a le petit manque d'expérience ici, de reconnaître « Ah, je fais tellement bien debout en ce moment que peut-être je ne devrais pas aller me battre au sol. » Fait que c'est ça qui va être intéressant à voir, les ajustements qu'il va faire là. Mais comme je dis, le produit brut d'Irvin Barrett est quand même excellent. Très, confortable comme striker, là, pour un gars qui a juste un combat pro, excessivement confortable sur ses pieds. Ça va être, je pense, très le fun d'avoir la chance de voir un bon kickboxer, un bon striker comme ça se battre ici contre un bon test en Noah Crosswell, là, un gars qui mesure 6 pieds, qui a un style weird, qui est aussi game d'échanger dans tous les aspects du combat. Fait que ça va être intéressant de voir si Barrett est capable de reconnaître, oh, si je gagne debout, je vais peut-être pas aller au sol contre un dude qui va lancer des weird triangles avec ses jambes de 13 km de long. Donc, c'est ça qui est ça. Les 8 combats de la carte. Je suis hype comme jamais, les chums. Fait que, likez ça, partagez ça à tout le monde. Faites savoir aux gens que c'est Samouraï MMA vendredi sur Fight Network, l'application Fight TV, en rediffusion par après sur RDS. Ça va être moi-même le commentateur en anglais. Fait que manquez pas ça, ça va être absolument incroyable. Je suis super hype. Nous autres, on va être là. J'ai Greg dans la place, j'ai Max Carabine dans la place. On va vous poster tous les résultats. On va être là pour la pesée de main. On va avoir du contenu par après, toute la patente. C'est une fin de semaine de MMA incroyable. Surtout que nous, on s'en va au BTC là, le lendemain à l'autre bout de l'Ontario. Fait que road trip, toute la patente, mais écoute, excessivement hype pour cette carte-là. Supportez vos athlètes québécois, que vous soyez sur place, que vous l'écoutiez sur Fight TV, sur Fight Network, supportez vos athlètes québécois, partagez leurs publications sur les réseaux sociaux, faites du bruit pour eux parce que le MMA au Québec est back, puis il faut qu'on aille l'appui de tout le monde pour que cette promotion-là marche, si qu'ils soient capables de faire un peu d'argent, assez d'argent pour rester, puis continuer à présenter d'autres combats. Donc, temps vraiment excitant. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était mon preview du premier Samouraï MMA. Et puis, on se voit tout le restant de la semaine. Il va y avoir du contenu toute la semaine sur la page. So, check it out. Puis, merci beaucoup d'avoir été.